bienvenue dans le module 5 de ce cours Microsoft Virtual Academy dans lequel vous apprenez à développer une application Cordova en utilisant AngularJS et Bootstrap. Dans ce module, on va s'intéresser un petit peu plus à la manipulation d'un fichier sur le système de fichiers du téléphone pour conserver des données pour l'utilisateur. Et en l'occurrence, dans notre exemple d'application qui permet de sauvegarder les moments de sa vie intéressants, on va sauvegarder un fichier JSON qui contiendra tous ces moments-là qui sont à garder et à réafficher quand on relancera l'application par la suite. Alors, donc je pars exactement du résultat qu'on a eu à la fin du module 4. La petite différence, mais vous pouvez le récupérer en fait, hein, vous pouvez repartir de là dans le module, vous avez ça à votre disposition. La seule petite différence, c'est que j'ai ajouté un petit peu de CSS dans le fichier, donc c'est juste du sucre graphique pour ajouter 2-3 petites choses, voilà, donc sur les boutons et sur ce type de choses-là dans AngularJS. Rien de monumental, vous pourrez jeter un petit coup d'œil. Et aussi, j'ai corrigé une petite erreur que j'avais fait dans le module précédent, qui est à cet endroit-là, dans les routes. J'avais ajouté un S à cet endroit-là, donc je pense que je vais le préciser au montage, donc vous devrez le voir dans le module précédent, mais supprimer ce S ici, je pense, à un moment, pour que ça fonctionne correctement. Voilà. Donc pas grand chose au final, et là pour rappel on a notre application qui tourne, on a toute la structure de l'application et on a la possibilité de naviguer via la barre de navigation de l'application entre ces deux vues qui sont tous les moments et ajouter un moment. Alors on va se concentrer sur ajouter un moment et on va modifier ça, donc add moments à cet endroit là, et en fait ce qu'on va faire, c'est vraiment très simple, on va créer l'interface web. J'ouvre les deux fichiers qui nous intéressent. On va créer l'interface web dans un premier temps, et puis ensuite on va créer le code du formulaire qui va permettre de sauvegarder un certain nombre d'informations. Et on va commencer par sauvegarder le titre et une image qu'on va mettre en dur et qui sera pour l'instant pas, qui ne proviendra pas du téléphone, mais qui sera pour l'instant voilà telle quelle, une image toujours la même. On la modifiera quand on utilisera la caméra dans un module ultérieur. Alors qu'est-ce que c'est que cette page Add Moments? C'est un formulaire dans lequel on a un certain nombre de choses à remplir. Donc, on va créer un formulaire, tout simplement un HTML, on va lui préciser que c'est un rôle form, pour les éléments qui sont capables d'exploiter cette information. Et on va lui demander, donc, si vous vous rappelez un petit peu de ce qu'on avait vu sur Bootstrap dans le module précédent, on va lui demander de faire en sorte que ce formulaire prenne toute la largeur, utilise les 12 colonnes qui sont disponibles dans la grille Bootstrap, et on va lui indiquer qu'on veut que ça se fasse pour les résolutions XS et du coup supérieures, puisqu'on n'a rien précisé. Donc XS étant la plus petite résolution, qui est une dimension d'un téléphone. Donc quand on est sur un téléphone, il faut que ça prenne 12 colonnes. On pourrait rajouter une classe pour indiquer qu'il faut que ça en prenne moins ou plus, ou que ça se comporte différemment quand on est sur une résolution supérieure. Mais là, ça prendra 12 colonnes dans tous les cas, puisqu'on ne précise pas de classe particulière pour les résolutions supérieures. Alors, à l'intérieur de ça, on va avoir un premier div qui va contenir en fait, le titre qu'on veut saisir. Donc on va mettre un label pour préciser que, à l'utilisateur ce qu'on attend de ça. Voilà. Et dans ce label, on va simplement dire que c'est le titre du moment, de l'instant qu'on est en train d'enregistrer. Et puis, bon, comme c'est un formulaire, on a une zone de saisie, type texte, voilà, qui va tout simplement permettre à l'utilisateur de saisir des informations. Pour qu'il sache ce qu'il doit saisir à l'intérieur, on va mettre un placeholder. Donc ça qui en HTML permet d'avoir du texte dans la zone qui disparaît quand on met le focus dans cette zone-là. Saisissez, on fait un petit peu d'anglais français, saisissez le titre du moment. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, on ferme cet input. En dessous de ça, on va avoir d'autres choses. Donc ce qu'on va retrouver, c'est un autre div. Et ici, on va mettre une zone dans laquelle on saisira une image. Donc on va déjà la saisir, comme ça existera, et puis on la complétera plus tard. Donc voilà, label, ajouter l'image. Et puis cette fois-ci, on aura un bouton qui aura un ID. et qui contiendra ajouter. Donc on fait trois petits points et quand on clique dessus, ça lancera l'appareil photo, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Et puis on prépare déjà l'endroit où on aura notre image qui va s'afficher. Pour l'instant, on ne met rien à l'intérieur. Et la dernière chose qu'on va ajouter, c'est un bouton HTML qui permettra de créer le moment. Voilà, tout simplement. Donc quand on cliquera dessus, ça va sauvegarder sur le téléphone cette information-là, ce moment supplémentaire. Si on fait ça comme ça, on va avoir un style qui est le style par défaut HTML qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Nous, on a envie que ça se regroupe et que ça soit un petit peu plus intéressant. Je vais vous montrer ce que ça donne actuellement. Si je lance l'émulateur, je débug mon code dans l'émulateur, vous allez voir que donc là, il compile tout ce qui va bien, il le déploie. Et il va me relancer mon application et on va voir que le style qui est là, c'est le style par défaut qu'on a dans un navigateur classique, même si on tourne dans l'application. Il faut pas oublier que c'est le navigateur qui fait tourner ça. Et donc si je vais dans Add Moment à cet endroit-là, ben, je vois bien c'est quelque chose qui est pas forcément super joli. Et là, on se rend bien compte qu'on est dans une application web. C'est très facile à voir parce que c'est vraiment le style par défaut. Pour pouvoir éviter ça, on va utiliser des classes de Bootstrap. Donc notamment ici pour mon div, je vais indiquer que ça c'est un form group, donc il va regrouper les deux éléments, le label et la zone de saisie. Et on va indiquer également une information supplémentaire. On va dire que ce label il est pour le titre, le title, et on va lui préciser que ça c'est le title. Donc comme ça on indique que ça c'est lié, enfin, ce label-là et donne une information par rapport à cette zone de saisie qui est ici. Et cette zone de saisie, on va également lui donner une classe pour préciser à Bootstrap que c'est un contrôle qui correspond au formulaire. Donc j'ajoute ma classe ici, form, contrôle cette fois-ci. Donc c'est un contrôle du formulaire. Voilà. On fait la même chose sur le div qui est dessous, voilà, qui est celui qui correspond à l'image. Toujours un form group. Et puis ce label-là, il est pour l'image, donc for image. Et le bouton en question. Il va avoir une classe également. Alors, il va avoir plusieurs d'ailleurs. Il va avoir le form control comme l'élément supérieur. Mais on va également dire à Bootstrap, c'est un bouton et donne-moi l'affichage classique d'un bouton. Alors, je suis plus dans la classe évidemment. Donc, c'est un bouton et puis c'est un bouton standard. Donc, button-default. Donc, ça va nous donner un bouton avec le style standard. Si vous allez sur le site de Bootstrap, vous pouvez voir les différents types de boutons qui existent et choisir celui qui vous correspond le mieux, qui vous convient le mieux. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez même d'ailleurs décider de créer, enfin de le modifier pour avoir la couleur que vous voulez et l'affichage que vous voulez. On va terminer sur ce bouton-là également. Donc, pour faire la même chose en lui disant que c'est un bouton et qu'on veut BTN default, voilà, pour cet élément-là. Si j'exécute ça, je refais la même chose que tout à l'heure. Cette fois-ci, ma page va contenir, enfin va avoir appliqué un style Bootstrap et vous allez voir que c'est vraiment très simple de donner une impression d'un formulaire qui a été un petit peu travaillé. Encore une fois, c'est bien pour le démarrage. Après, on va avoir besoin peut-être d'appliquer des styles un petit peu différents pour ajouter un petit peu sa patte de design et avoir quelque chose qui nous correspond un peu mieux. Mais on est déjà ici, vous voyez, vraiment très très peu d'efforts, on est déjà quelque chose qui est un peu plus sympa. On a des bords arrondis, si on veut les avoir arrondis ou pas, on peut d'ailleurs choisir de ne pas les avoir. On a ce bouton qui est ici, un bouton qui est là pour créer, etc. etc. Donc on a très rapidement quelque chose qui commence à ressembler à une interface d'une application sans avoir fait un effort démesuré de CSS. Et passer des heures sur comprendre comment on doit faire pour arrondir les bords d'un contrôle. Voilà, donc là on a la base de la partie HTML. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de comprendre un peu mieux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modifier le code du contrôleur. Même pas le modifier, en fait, on va le créer complètement. Et donc ce qu'on va faire là-dedans, c'est qu'on va d'abord commencer par dire que dans le scope. Vous vous rappelez, hein, le scope qui définit les éléments pour ce contrôleur-là et cette vue, du coup, on va ajouter un objet qui s'appelle le moment. Donc c'est un moment, ce qui sera celui qu'on va enregistrer et qu'on va conserver. Ce moment, il a deux informations importantes. Il a l'image, son image. Alors pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une image qui sera en dur, on le fera juste après. Et on a un titre. Et par défaut, le titre est vide. l'image en question. Alors vous avez normalement avec le cours dans le zip que vous pouvez télécharger, l'exemple de code, vous avez un répertoire dans lequel vous avez une image qui s'appelle plage.png. Ce que vous faites, c'est que vous l'ajoutez dans le répertoire. On va faire comme ça, voilà. On va aller dans le répertoire qui est ici, j'ouvre ce répertoire là, je colle mon image. Et ici, alors on a une petite astuce, en fait il y a un petit bouton là qui permet de voir tous les fichiers, même s'ils ne sont pas à l'intérieur du projet. On voit ici, il y a une petite icône particulière là cette icône là que le fichier est dans le répertoire mais n'est pas référencé dans le projet. Donc on va l'ajouter. Pour faire ça, on fait un clic droit sur le fichier et on l'inclut dans le projet. Voilà, donc maintenant il fait partie de ce projet et il est à l'intérieur. On enlève cette petite vue là. Voilà. Et donc dans un premier temps, on n'enregistrera pas l'image du téléphone, on va simplement utiliser celle qui est dans images slash plage.png. Voilà. Et voilà, donc là on a notre objet qui se situe ici. Ce titre, il va provenir du formulaire HTML, qui n'est pas dans cette page-là, qui est dans celle-là, voilà. Il va provenir de cette zone de saisie. Pour pouvoir utiliser cette zone de saisie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonctionnalité d'AngularJS, qui est une des raisons pour lesquelles j'utilise ça en fait pour faire mon application web ici, qui est le binding entre un élément de l'interface graphique qui permet de faire de la saisie notamment et du code en JavaScript, donc et une variable en JavaScript. Donc pour ça, on va taper ng pour AngularJS-model égale, et là-dedans, on va indiquer la variable qui est dans le scope du contrôleur à laquelle on veut s'associer. Donc ça va être moment.title, puisque en fait c'est exactement la variable qui m'intéresse. Donc c'est la variable moment.title, c'est comme ça que j'y accède. Et du coup, à partir du moment où je vais démarrer ma vue et que j'ai mon contrôleur qui est derrière et qui le pilote, dès que je saisis quelque chose dans input, à tout moment, en fait, c'est du binding temps réel, cette variable est mise à jour. Donc j'ai pas besoin ensuite d'aller chercher en utilisant du code DOM, d'aller chercher. De manipuler mon HTML pour aller retrouver le contrôle et récupérer sa valeur et puis la saisir. Je l'ai automatiquement dans cette variable, ce qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus propre en termes d'écriture de code. Une fois qu'on a ça, on va vouloir sauvegarder cette information-là. Pour la sauvegarder, cette information, on va appeler une fonction à partir du bouton qui est dans notre code. Donc cette fonction-là, on va l'associer au scope, donc je la rajoute à mon scope. C'est une fonction qui va s'appeler add moment égale fonction, donc là c'est du JavaScript classique, hein. Donc je crée cette fonction-là, et donc elle sera appelée, on va faire du code à l'intérieur, qui va sauvegarder les différents moments. Pour pouvoir l'utiliser dans mon code HTML, cette fonction-là, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore lié, en fait, si je viens ici, vous voyez que ce n'est pas lié du tout, je vais utiliser un autre élément d'AngularJS qui s'appelle ng-click, qui va permettre d'associer une fonction qui est dans mon code behind, directement au clic sur le bouton, donc add moment, voilà. Et donc, à partir de là, dès que je clique sur ce bouton, j'ai mon code JavaScript derrière qui est appelé, qui est celui-là, et qui est appelé dans le contexte de mon contrôleur. Il ne va pas aller chercher une méthode addMoment qui viendrait d'ailleurs. C'est pour ça qu'on utilise ngClick et pas l'événement clic du bouton classique. Voilà, à partir de là, j'ai mon code addMoment, et là maintenant, j'ai envie de là-dedans commencer à créer quelque chose. Alors ce que je vais réellement sauvegarder, c'est pas juste l'objet, je vais sauvegarder un tableau qui va contenir mes objets. Pour l'instant, le tableau, je le lis pas encore, donc je ne l'ai pas. Donc ce que je vais écrire ici, je vais simuler comme si j'avais déjà un tableau qui existait avec des moments, mais que ce tableau est vide. Donc je crée un tableau en JavaScript, voilà, tout simplement, qui est vide, qui ne contient aucun élément. Et ce que je vais faire quand je clique sur ce bouton, ce qui se fera par la suite, en fait, c'est que je vais indiquer qu'en fait sur mon scope et sur la variable moment au pluriel sur mon scope, je vais insérer dans ce tableau l'état actuel de mon moment qui est actuellement ici, donc en fonction du titre qui aura été saisi à cet endroit-là. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai envie d'appeler une autre méthode qui sera save, et qui va sauvegarder mon moment tout simplement. va sauvegarder l'état du tableau actuel et le stocker dans un fichier qu'on pourra ensuite relire pour l'afficher dans la page d'accueil. Cette méthode save, donc, il faut que je la crée. Voilà, scope.save égale fonction, qu'elle prend aucun paramètre. Et là-dedans, bah, il va falloir que j'écrive du code qui va prendre l'objet et qui va le sauvegarder, le sérialiser dans du texte et qui va le conserver sur le disque. Pour pouvoir faire ça, je vais avoir là j'ai atteint les limites entre guillemets de ce que je peux faire en web. On pourrait faire quelque chose, mais là, je commence à avoir besoin des plugins de Cordova qu'on avait vu dans les premiers modules. Ce fameux plugin, en fait, comment je fais pour indiquer que je veux l'utiliser? C'est très simple. Je double-clique sur le fichier config.xml qui est ici. Je vais dans les plugins où je le modifie derrière. Hein, c'est de la même manière. Je le modifie. Je le modifie en XML, ça fonctionne pareil, et je vais indiquer ce qui m'intéresse. Donc là, vous voyez tous les plugins, l'accéléromètre, la caméra, les contacts, les devices, etc., etc. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le file system. Donc je coche le file system, et à partir de là, dès que Visual Studio va compiler mon application hybride app pour me générer mon code Cordova, il va aussi appeler le code. Appeler la ligne de commande, pardon, qui va insérer, ajouter, créer mon plugin. Ça va me le télécharger et me le rendre disponible dans mon application. Donc à partir de là, je peux utiliser le file system et ce sera utilisé par rapport au téléphone sur lequel je serai, ça utilisera celui du téléphone. Donc, alors vous avez toute la documentation qui existe à ce sujet, hein. On va voir une première technique qui va utiliser du JavaScript pur, entre guillemets, et donc on va se baser sur le système de callback classique qu'on a en JavaScript où on appelle une fonction qui est asynchrone. Donc on va d'abord demander d'avoir accès au système de fichiers. Ça va se passer, ça se fait de manière asynchrone et on lui donne une méthode, une fonction qui sera appelée une fois qu'on aura récupéré les résultats et dans cette fonction on exploite la variable qu'on a récupérée, etc., etc. Donc ça c'est une première manière de faire. On verra dans les autres cours qu'on a une méthode qui est beaucoup plus simple pour pouvoir manipuler ce genre de choses, mais je trouve que c'est intéressant d'abord de comprendre comment ça marche à la base, comment ça marche derrière. Donc pour pouvoir utiliser le file system, on va appeler une fonction qui s'appelle request file system, dans lequel on va indiquer, donc on a en fait quatre paramètres, window.persistent. Donc on va lui indiquer qu'on veut avoir accès au... donc c'est une variable qui est derrière c'est une constante qui contient une valeur numérique. On va lui indiquer qu'on a envie d'avoir accès au système de fichiers qui reste et pas un système de fichiers temporaire de cache. On lui indique ensuite le deuxième paramètre qui est la taille qu'on pense que le fichier va prendre. Là en l'occurrence on ne le sait pas, donc on met 0 pour lui indiquer qu'on veut pouvoir stocker ce qu'on a envie. Et à partir de là, on a deux fonctions qui sont à préciser. La première c'est la fonction qui sera appelée quand on aura récupéré le système de fichiers, un objet qui permet de manipuler le système de fichiers, qu'on va appeler fsreceived, c'est à nous de la développer, et une autre fonction qui va être appelée en cas d'erreur. Donc error, je vais l'appeler error handler, on va l'utiliser plusieurs fois celle-là. Alors ce qu'on va faire justement, c'est que on va créer cette fonction qui va s'appeler fsreceived. Donc fs received égale function, et donc ce request file system, quand il nous donne accès au système de fichiers, il appelle cette fonction en donnant en paramètre le file system, qui est un objet qu'on peut manipuler pour accéder justement aux différents fichiers qui sont stockés sur un système de fichiers. À partir de là, je vais lui indiquer tout simplement que je veux accéder à la racine du file system .root. Et donc là, j'ai pas besoin de connaître où elle est stockée, quelle est son adresse. J'accède à la racine, et sur la racine, je veux récupérer un fichier, getFile, donc qu'il existe ou pas, hein, que je vais appeler moment.json, puisqu'en fait, on va stocker le tableau en question qui va contenir tous les moments de l'utilisateur. On va le stocker au format JSON sur le système. Et on va lui passer en paramètre un objet qui peut contenir plus ou moins d'informations, et notamment une qui est très importante, qui est le fait que si le fichier n'existe pas, on veut qu'il le crée. Donc comme ça, on simplifie la vie, on n'a pas besoin de vérifier s'il existe ou pas. S'il n'existe pas, il crée le fichier. Et on va également lui préciser qu'on ne veut pas avoir un accès exclusif sur ce fichier, de cette manière-là. Voilà, une fois que on a qu'il a récupéré ce fichier hein, et qu'il a récupéré l'entrée vers ce fichier-là qu'on peut ensuite manipuler, il va appeler une fonction, donc c'est comme tout à l'heure, qu'on va appeler fe receive pour file entry, et puis si jamais il y a une erreur, on va lui demander d'utiliser error handler. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc je continue à exécuter mon code. Je continue à développer mon code, pardon. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui créer la fonction qui s'appelle FE_received, qui est celle qui sera appelée quand il aura récupéré un pointeur vers ce fichier qu'on pourra ensuite manipuler. Donc, ce qui va passer lui en paramètre, c'est cette fameuse entrée vers le fichier, donc file entry. Et dans cette file entry, qu'est-ce qu'on va faire avec cette file entry? C'est qu'on va lui demander de créer ce qu'on appelle un file writer qui permet d'écrire dans ce fichier. Donc c'est un objet qui va permettre d'écrire dans ce fichier. Donc file entry point create writer. Voilà. Et ce create writer, quand il a réussi à le créer et qu'il l'a à sa disposition, il va nous le communiquer dans une fonction. Pareil, hein, toujours ce système de callback. Received, donc file writer received, et puis error handler. Si jamais j'ai une erreur, il va se passer ça. On y est presque. Une fois que j'ai accès à ce qui me permet d'écrire dans le fichier, mon file writer, donc dans la méthode, dans la fonction qui va s'appeler fw received, je vais donc en paramètre récupérer ce file writer. Et à l'intérieur de cette fonction, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement écrire dans le fichier. Avant d'écrire, je vais d'abord sérialiser en JSON l'objet qui contient, donc le tableau qui contient tous les moments, tous les objets moments. Pour faire ça, la méthode classique qu'on a en JavaScript, on va stocker ça dans une variable, momentsText, égale, la méthode classique, c'est de faire JSON.stringify, et ça va nous stringifier, nous transformer sous forme de string cet objet, sous format JSON classique, hein, qu'on connaît très bien. Le problème de ça, c'est qu'on est en AngularJS, quand on va utiliser le système de binding, ce qu'on fera avec cet objet au final, avec ce tableau, il va ajouter à l'intérieur des choses à lui pour savoir où il en est, comment faire le binding, et il va rajouter des IDs, ce genre de choses-là. Du coup, on va se retrouver avec des choses dont on n'a pas forcément besoin et qu'on ne veut pas surtout récupérer, et on va sérialiser des choses qui n'apportent pas de valeur. Donc pour ça, on va utiliser Angular. On va utiliser une fonction qui s'appelle toJSON, qui justement va enlever tous ces éléments qui sont associés au binding. Donc angular.toJSON du scope.moment. Donc je prends mon tableau, pour rappel, hein, qui est le tableau qui est ici, voilà, qui va contenir un élément. Il contiendra dans un premier temps à chaque fois qu'un élément, mais on aura des choses plus intéressantes par la suite. Il viendra contenir peut-être plus d'éléments d'informations que ça. Et voilà, donc on le sérialise dans une variable qui sera du texte, et on utilise le file writer.write, on lui demande d'écrire dans le fichier en question, d'écrire le moment texte qui est ici. Voilà. Point virgule. Et voilà. Et puis, il ne faut pas oublier d'écrire notre gestionnaire d'erreur, file handler, égale function. Et puis, en paramètre, ça prend une erreur. Donc, c'est du texte, en fait, hein, qui sera passé en paramètre. Un objet qui contient les informations, alerte. Alors on pourrait afficher une erreur si jamais. Là on va pas le faire parce que on est dans une application qui est quand même une application de démo, donc si jamais il y a une erreur comme ça passera un petit peu au travers. Mais c'est ici qu'on pourrait avoir toute une gestion d'erreur avec un message qui est affiché à l'utilisateur, qui sera un peu user-friendly, qui explique un peu quel est le problème potentiellement, et qui peut même d'ailleurs être utilisé pour envoyer quelque part un log sur un serveur pour indiquer qu'on a eu un problème X ou Y. Voilà. Donc on a maintenant notre code ici qui permet de sauvegarder ce fichier. Et on va faire une dernière chose, c'est qu'en fait, je vais dézoomer un tout petit peu, voilà. C'est qu'en fait, quand on clique sur Save, le comportement auquel on s'attend dans une application, c'est que ça sauvegarde, bien sûr, mais surtout ça revient sur la page d'accueil et ça ferme là où l'endroit de saisie où j'étais. Donc pour faire ça, on va utiliser un objet d'Angular qui permet de modifier la localisation, enfin l'endroit où on est dans une application et de changer, du coup, de forcer la route en fait de l'application et de changer l'URL de manière propre. Et donc pour faire ça, on va lui demander, enfin, on va indiquer que le contrôleur a également besoin de l'objet location, location, qui, pour rappel, donc ce fonctionnement-là, pour rappel, va être injecté dynamiquement à l'exécution de l'application. Angular va voir que j'ai demandé l'objet location, location, qu'il le connaît, donc il va me le passer en paramètre directement. Et du coup, je peux l'utiliser à cet endroit-là, location, et sur cet objet-là, j'ai une méthode, une fonction qui s'appelle pass, à laquelle je peux donner un chemin qui sera du coup utilisé et qui sera passé. Donc les routes vont changer, je vais revenir sur ma page d'accueil. Voilà, à partir du moment où j'ai fait ça, on vérifie qu'on a bien tout ce qu'il faut à cet endroit-là. J'ai bien également tout ce qu'il faut dans mon code. En toute théorie, je démarre mon émulateur. Enfin, je lance mon application dans mon émulateur. Donc là, on voit bien qu'il rajoute les plugins qui vont bien. Vous voyez à cet endroit-là, je pense qu'on voit très bien, là, voilà. Bon, ça a disparu, mais dans votre Visual Studio, vous le verrez correctement. Il appelle bien ces différentes lignes de commande quand il compile, il rajoute ces choses-là. Et quand il va lancer l'application, on va se retrouver sur la page d'accueil puisqu'il il la réinstalle complètement. Voilà, c'est parti. Donc ici, je clique sur Add Moment, je me retrouve avec mon formulaire comme tout à l'heure. Je vais saisir des informations. Donc je saisis, peu importe, je vais peut-être pas mettre ça, je vais mettre, je sais pas, bonjour, voilà, un super moment. Et puis je clique sur le bouton Créer. Voilà. Je reviens bien sur la page d'accueil puisque j'ai appelé le location.pass. Et à partir de là, je vais utiliser un outil, je vais faire une petite parenthèse pour vous le présenter, qui permet d'accéder au stockage local de l'émulateur, d'un émulateur Windows Phone. Pour ça, vous utilisez, donc vous allez sur l'URL suivante, qui est isostorespy.codeplex.com, et vous arrivez ici, vous téléchargez cette petite outil que vous installez, et qui va vous permettre de voir ce qui se passe dans le stockage local de votre application. Donc c'est une application qui ressemble à ça, avec un œil qui vous suit, là, c'est un peu bizarre, mais bon, ça fonctionne très bien. On clique sur WP Application ici. Et là, on a la possibilité de choisir parmi les différents devices qui nous intéressent. Ça marche aussi avec le device physique. Je clique sur mon émulateur qui est là. Et je vais voir l'application qui est là. Je n'ai pas donné de nom encore, donc elle s'appelle UnknownName. Je sélectionne cette application. Et je me retrouve avec un petit explorateur de fichiers ici, avec les fichiers qui sont disponibles pour mon application. Et à la racine, je retrouve bien mon fichier moment.json que je peux même télécharger. Voilà. Je peux stocker ça sur le bureau quelque part, le stocker là. Et si je vais justement sur mon bureau, donc on va réduire toutes ces fenêtres, je vais me retrouver ici avec mon fichier moment.json que je peux ouvrir, on va l'ouvrir avec le bloc-notes, et je vois bien mon objet qui a été sérialisé dans un tableau ici. Donc là, il n'y a qu'un élément, donc ça a été sauvegardé comme ça. Mais on retrouve bien ce qu'on a sauvegardé. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça fonctionne pour Windows Phone, puisque je vous le montre dans l'émulateur Windows Phone, mais on est bien d'accord que ça fonctionne également avec iOS et ça fonctionne également avec Android. C'est là tout l'intérêt qu'on a à utiliser Cordova, justement, en plus, quand on fait une application web, c'est vraiment l'intérêt qu'on a. Voilà pour ce module dans lequel on a vu comment sauvegarder des données sur le système de fichiers du téléphone. Dans le prochain module, on verra comment on va faire pour les lire en utilisant d'ailleurs un framework qui va nous simplifier un petit peu la vie.